Voilà, on a avec ce film, cet extrait de film, illustration de deux cas d'école en quelque sorte. Le cas le plus poignant, hein, au milieu du film, où on voit une zone du Burkina Faso, au nord du Burkina Faso, qui est complètement dépourvue d'eau, d'accès à l'eau, puisque l'eau n'est même pas disponible à proximité. Les gens essaient de creuser des puits, ils n'y arrivent pas, enfin, ou n'arrivent pas en tout cas à détecter l'eau. Et c'est une situation qui perdure depuis des années. Donc là, un accès à l'eau qui est impossible par carence de la ressource. Et l'extrême inverse, qui est illustré au début et à la fin de cet extrait, c'est au contraire une eau disponible, mais qui est rendue difficilement accessible, d'après ce qu'on peut comprendre dans le film, et ça demanderait certainement une discussion plus approfondie, en raison de ce qu'on appelle la privatisation de la distribution de l'eau, dans une zone qui est largement pourvue en eau par les rivières et les fleuves. Donc je ne sais pas si ça peut résumer la question de l'eau à l'échelle mondiale. En tout cas, elle a des retentissements, enfin, moi, tel que je les perçois, y compris dans notre pays, hein, puisque, encore une fois, la question de l'accès à l'eau, elle se pose en fonction de la distribution de l'eau et du prix de l'eau qui en résulte. Et on sait que dans certaines communes, la privatisation de l'eau, en tout cas la gestion de l'eau par des firmes privées, peut poser problème, de par le fait que le prix de l'eau va pouvoir augmenter en partie pour ces raisons-là. Alors, je vais peut-être vous demander de réagir peut-être à cet extrait de film, et puis ensuite on demandera à Michel Joly aussi de donner son point de vue, avant que lui-même poursuive un petit peu l'exploration de la question de ces ressources, de ces biens communs, avec sa vision à lui. Alors, est-ce que vous avez des choses peut-être à... Allez-y. Je vous donne le micro à chaque fois pour qu'on vous entende.
Je vous donne le micro Oui, je veux dire que je voudrais revenir sur la DSP. Il ne faudrait pas diaboliser les DSP. Les DSP, délégations de services publics, ça merde en général. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne les suit pas. On ne les suit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle qui s'exerce. Et je suis désolé, c'est un mode de gestion qui existe depuis 1850 en France à peu près. Hein. Mais je pense que la négation de ces pratiques vient du fait que c'est pas assez contrôlé. On n'arrive pas à serrer vertement les sociétés qui travaillent dans ce... Bon, ils cherchent l'opacité, c'est sûr, on le sait. Mais il y a d'autres acteurs qui interviennent et qui font que c'est encore plus opaque.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou réagir ? Oui, madame.
C'est l'eau, comme toutes les denrées de première nécessité. Il devrait y avoir interdiction de spéculer sur l'eau. Mais bon, c'est mission impossible, quoi. Mais en fait, quand on parle de l'eau, il y a que l'eau du Niger qui est traitée, recyclée pour que ce soit de l'eau potable, quoi. Donc il y en a de l'eau quand même dans le fleuve du Niger, non ? Alors pourquoi il manque d'eau ? Je sais pas.
Une autre réaction ? Bon, Michel Joly, peut-être. Alors votre point de vue sur ce film, cet extrait ?
Bien, effectivement, ces deux exemples qui peuvent paraître opposables. Mais en réalité, ils sont assez voisins, étant donné que au Burkina Faso, les difficultés qu'ils rencontrent, comme on vient de le dire, sont liées surtout au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'eau ou que les populations ne résident pas là où se trouve l'eau. Le gouvernement a donc organisé, en dépit des pressions, ils l'ont dit, exercées par la Banque mondiale, un dispositif public. Un dispositif public, même s'ils sont des opérateurs privés, associatifs, ça veut dire dispositif soumis au contrôle constant, étroit de la population. Donc ça répond en quelque sorte à votre question, bien que ce ne soit pas des DSP. À partir du moment où ce sont les populations qui prennent en charge eux-mêmes la réalisation des puits, l'organisation de la distribution, le recueil des petites contributions, vous avez vu, elles sont une branche de 1000 ou quelques francs CFA, à partir de ce moment-là, c'est toute la population qui se sent responsable du dispositif. au Niger, eh bien, on a le même système ailleurs qu'à Niamey. Ce qu'on nous a montré, c'est essentiellement ce qui se passe dans une grande ville, c'est-à-dire dans une ville où les gens ont suffisamment de richesses pour pouvoir payer l'eau comme nous la payons. C'est un dispositif mis en place qui ressemble complètement à ce que nous faisons en France ou dans les pays développés, c'est-à-dire un prestataire privé qui a finalement le monopole de l'organisation, de la distribution, du traitement de l'eau et évidemment de sa facturation. Mais cela ne concerne que la ville de Niamey. Pour le reste, si vous vous déplacez dans le Niger, vous trouverez exactement les mêmes conditions d'organisation locale que celles que vous avez vues dans le nord du Burkina Faso.
Le film oppose quand même ces deux réalités. D'un côté, la gestion collective de la ressource par ces bornes fontaines, et puis, oui, de côté, une distribution qui vient d'en haut et qui a été soumise à un contrat entre l'État et
mais
cette société.
Mais il est vrai que ce contrat ne porte que sur la ville de Niamey et donc sur une distribution qui concerne des gens qui sont relativement mieux lotis que les zones rurales.
Oui, mais en même temps, ce modèle nous semble, d'après ce que dit le film, ne pas fonctionner justement à Niamey, dans la mesure.
En plus, ouais, il ne fonctionne pas, puisque en tout cas, il s'est traduit par une augmentation importante de la facturation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux pays, enfin, il y en a un qui a résisté, mais l'autre qui a cédé. Le Niger a accepté le diktat de la Banque mondiale et du FMI. Pourquoi ? Parce que les prêts consentis pour la distribution de l'eau sont conditionnés à la privatisation de cette distribution. Partant du principe que si on laisse ces pays-là se débrouiller tout seuls, ça ne marchera jamais. Et qu'il faut donc un opérateur sérieux, une multinationale qui a fait ses preuves dans d'autres pays, notamment dans les pays développés, et qu'à ces conditions-là, on peut prêter de l'argent parce qu'on sait d'une part que ça sera bien fait, d'autre part que les prêts seront remboursés. Eh bien, si les prêts sont effectivement remboursés, c'est aussi une source de profit considérable pour ces opérateurs privés. Et donc, il y a une entente objective entre les organisations internationales chargées de mettre en œuvre le développement et les grandes entreprises privées de services. Cela me paraît évident et c'est la première conclusion qu'il faut apporter à ce film.
Revenons quand même un petit peu sur la question justement des investissements privés, parce que c'est vrai que la distribution de l'eau coûte très cher. Donc on peut concevoir que pour un pays qui est pauvre, qui n'a pas donc les investissements, les ressources financières nécessaires pour créer ces infrastructures de distribution d'eau, il faille trouver donc des ressources financières. Donc ça paraît assez cohérent finalement, le discours de la Banque mondiale paraît assez cohérent. Faisons appel aux investisseurs privés, aux grandes sociétés qui ont les moyens comme Veolia ou d'autres de créer ces grandes infrastructures de manière à pouvoir les créer justement et donc à gagner du temps. Est-ce que c'est si déraisonnable que ça finalement ?
C'est-à-dire que bien sûr il faut rembourser les prêts, mais si c'est en faisant payer des gens qui ont l'incapacité de payer ou qui sont obligés de se sacrifier dans d'autres secteurs de leur vie pour pouvoir honorer ces factures, on ne peut pas dire que ce soit très équitable. J'y reviendrai tout à l'heure. Le problème est de savoir si l'eau est une marchandise comme les autres ou non. Et c'est ce que je vous expliquerai dans un moment.
Est-ce que sur ces points-là, vous voulez peut-être intervenir ? Attendez, je vous passe le micro aussi.
Vous êtes sûr que Veolia, au Niger, il a fait des... Il investit ?
Non.
Il investit avec les crédits.
Il n'a pas investi.
Avec les prêts de la banque.
Voilà, il est d'accord. Il a investi avec les prêts de la banque. Et comme par ça. Contre, et la non, banque seulement, demande... non seulement il a la capacité de rembourser ses prêts, mais il a la capacité
la banque lui demande...
de faire des profits très importants. Vous avez entendu Jean-Luc Touly, comment se fait le prévisionnel du prix de l'eau.
Mais non, mais c'est sûr. Alors,
on commence par calculer les profits que l'on veut retirer de l'opération, et ensuite on y ajoute les charges.
Bon. Enfin, moi qui ai travaillé un petit peu dans l'eau, c'est sûr que faire un réseau d'eau tout neuf, ça coûte la peau des fesses. Hein.
Oui, mais
bon, c'est pas une opération
nous verrons, neutre. Nous verrons quelle sera la pérennité des réseaux qui ont été installés au Niger par Veolia.
Remarquez que bon, vous
en
avez.
En France, les réseaux d'eau ont été créés le siècle dernier avec une viabilité de 100 ans. Mais c'est des réseaux qui, effectivement, ont tenu le coup jusqu'à maintenant. Enfin, je ne veux pas revenir sur la problématique franco-française,
oui.
Mais c'est vrai qu'en France, les multinationales, qui quand même gèrent 80% de la distribution de l'eau dans notre pays, n'ont pas investi.
Pas 80%.
Mais non, c'est 70 parce qu'on en a récupéré un certain nombre en régie publique. Mais si c'est 70. Et n'ont pas eu à faire ces gros investissements.
Oui, on assiste maintenant à la pression des gros pour renouveler tout parce que ça ne va pas tenir et on est submergé d'un tas de renouvellements. On parle de la fonte, on parle de PE, on parle de l'amiante, on parle d'un tas de trucs. Et derrière, qu'est-ce qu'on trouve ? Les multinationales.
Bien sûr.
Veolia et compagnie qui font...
C'est un marché fantastique.
Oui, mais qui font... Mais alors, ce qui est malheureux, c'est qu'ils font la nique à Bruxelles. Et c'est comme ça qu'on, par retour de Bruxelles, on a des règlements qui deviennent complètement déconnants. Quoi.
Ben oui, c'est comme la Banque mondiale.
Et avec la Banque mondiale, c'est exactement le même schéma.
Exactement
on est bien d'accord.
Le même schéma.
On est bien d'accord.
Notre réaction, oui, monsieur.
Oui, si on a vu l'approvisionnement en eau dans des pays qui en sont tout à fait dépourvus, dans nos pays civilisés, un des gros problèmes est aussi l'épuration des eaux usées. Et les multinationales, et le fait que les municipalités font des délégations de services publics à ces sociétés, c'est souvent sous le prétexte que ces opérations sont d'une technologie compliquée, ce qui est complètement faux. Il y a un exemple qui d'ailleurs sort de l'emprise de Bruxelles, puisque ça vient de Norvège et que j'ai entendu ça à la base, c'est que le gouvernement a établi des cahiers de charges pour l'épuration des eaux et qu'il a distribué gratuitement à toutes les municipalités. Donc ces municipalités, si elles n'ont pas envie de faire le boulot elles-mêmes, elles ont un cahier de charges. Il faut faire du béton, il faut faire des bassins d'incantation, il faut faire des pompes, il faut faire des machins qui tournent, il faut acheter des bactéries pour les mettre de temps dedans. Donc pour une municipalité, ça devient très simple à faire. Il n'y a plus besoin de cette technologie soi-disant mystérieuse et compliquée pour laquelle on devrait faire appel à des multinationales qui, soi-disant, quand elles sont responsables, se plantent aussi. Hein. Les stations d'épuration qui ne marchent pas, il y en a autant qui viennent de Veolia, des grandes sociétés, que de celles qui seraient gérées par des municipalités. Donc je crois que c'était en Norvège, donc, comme je vous dis, hein, ça sort de Bruxelles, ils font ce qu'ils veulent et ils ont des sous d'ailleurs d'une manière générale, mais ils ont mis en œuvre quelque chose qui rend les délégations de services publics totalement inutiles.
Ça fait.
D'ailleurs, la question du traitement de l'eau n'est pas abordée dans le film, mais on peut imaginer aussi qu'elle pose énormément de problèmes dans des tels pays. Est-ce que vous avez un peu l'expérience de la question de ce traitement dans
Afrique ? Il n'y a pas de traitement des effluents en Afrique, dans les deux pays que vous avez vus, sauf en ville.
Même dans les grandes villes, il y en a où
il y a des réseaux d'égouts, mais qui sont quand même très insuffisants par rapport à la démographie galopante des cités et des zones urbaines. On ne peut pas dire que les effluents de l'activité humaine en Afrique soient correctement traités. Dans les villages, finalement, les choses se passent mieux parce que quand on crée un puits, eh bien, on assure la formation de tous les usagers du puits pour éviter qu'il y ait des contaminations, pour que les abords du puits soient cimentés, pour que le bétail ne s'approche pas des puits utilisés par l'homme, pour que la distribution soit faite de manière hygiénique. Vous l'avez vu, c'est propre, hein. Tous ces petits réseaux, ces femmes sont très attentives à la qualité, à la propreté de leur seau, de leur récipient. Il y a toujours un fontainier qui est là pour non seulement recueillir les petites contributions de chacun, mais également pour donner des conseils, pour éduquer la population. Tout ça, c'est quelque chose qui, finalement, permet d'assurer l'aspect sanitaire du problème.
Je reviens sur la partie du film où on voit justement des gens qui n'ont pas accès à l'eau dans le nord du Burkina, justement. Ces gens creusent des puits mais n'arrivent pas à trouver l'eau. Est-ce que c'est sans solution ? Est-ce que ça veut dire, comme vous le disiez au début, que finalement il ne faut pas que ces gens-là vivent là, qu'ils doivent donc aller ailleurs ? Ou est-ce que la technologie, éventuellement, et des aides d'ONG ou d'autres pourraient solutionner ces problèmes ?
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de solutions technologiques pour trouver de l'eau là où il n'y en a pas. Donc, c'est un problème de transport, hein, c'est un problème de réseau, c'est un problème de... Ça peut être du transport routier, ça peut être avec des containers. Il peut y avoir des distributions régulières dans les villages. Mais c'est vrai également qu'il va falloir quand même imaginer un jour que les populations se regroupent là où l'eau est accessible. Je pense que ça, ces pays-là n'y échapperont pas, même si c'est parfois très difficile de demander à des populations de se déplacer, de vivre ailleurs que là où vivaient leurs parents.
Merci. Monsieur.
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en Afrique, enfin, je ne connais qu'un seul pays d'Afrique noire, les problèmes urbains et les problèmes ruraux sont à 10 000 lieues les uns des autres. La problématique de la santé publique en milieu urbain, c'est une catastrophe. En milieu rural, on arrive à mieux à cerner les problèmes et à les faire, et à trouver des acteurs qui les prennent en charge.
Nous verrons ça tout à l'heure.
Oui.
Oui, alors j'ai l'avantage d'avoir suivi toutes les conférences depuis le début, du fait d'avoir organisé la semaine. Ce qui m'a frappé, c'est que cette problématique de migration revient de façon récurrente. Donc on va avoir des mouvements démographiques, j'en ai parlé hier soir déjà, très importants. Et vous avez dit qu'effectivement, en Europe et en France, on est à 1000 lieues de ces problématiques-là, en tout cas de l'extrême dans lequel on voit les problèmes dans le film. Néanmoins, Jean-Christophe Victor, en début de semaine, nous a montré des cartes assez édifiantes. Et notamment, en Espagne, on a un déficit tel au niveau hydrique aujourd'hui que l'Espagne est en train de passer à des solutions qui étaient inenvisageables il y a quelque temps, donc désalinisation de l'eau, par exemple. Alors, évidemment, seuls les pays riches peuvent se payer ça. Néanmoins, donc, je me dis, dans une perspective pas si éloignée que ça, la question va se poser, y compris chez nous, puisqu'on a vu que malgré des précipitations qui se maintiennent, voire qui croissent, on est dans une période de sécheresse avec une diminution de nos réserves d'eau de façon constante. Et si on continue comme ça, on va tendre vers zéro à un moment donné. Donc, je pense qu'il faut garder quand même en perspective qu'on n'est pas à l'abri d'une problématique de ce type-là, c'est-à-dire est-ce que dans 50 ans, il ne va pas falloir aussi envisager une migration de population dans certaines zones du territoire français.
Oui, pardon.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était monsieur.
Oui, moi je trouvais que le film était un peu caricatural parce que finalement, opposer vraiment... une prise en charge par la population avec la privatisation. Très souvent, les pays sont venus à la privatisation parce que justement, la gestion par les communautés, c'est pas bien passé. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup de détournements. Il y a eu plusieurs pays qui, comme ça, ont dû réaliser des audits des associations d'usagers d'eau qui géraient des points d'eau. Et voilà, et globalement, la population, l'argent avait disparu, l'entretien n'était pas fait, etc. Et donc, il y a, c'est vrai, beaucoup d'exemples actuellement où on recherche des formes de partenariat entre services publics, mairies, communes, parce qu'il y a pas mal de pays aussi qui ont aujourd'hui des décentralisations en cours, etc. Et puis des privés. Et pas forcément des privés non plus comme Veolia, mais des petits privés, quoi. Donc voilà, je trouve que le film ne laisse pas trop la place en fait à tout ce qui est expérimenté dans ce domaine de la gestion, quoi, qui est globalement assez compliqué.
Une réaction, Monsieur Joly. Est-ce que dans le premier exemple, ce qui est au-delà de ce que vous venez de dire, c'est aussi la question de l'association de la population à la gestion de l'eau qui me paraît intéressante, c'est-à-dire que les gens sont responsabilisés vis-à-vis de la ressource, à la mesure où d'abord c'est leur bien commun, et on les voit donc impliqués dans cette gestion, et c'est peut-être ça qui, moi, m'a paru le plus intéressant. On sent les gens impliqués, donc avec des responsables de chacune des bornes, on sent les enfants aussi impliqués, donc il y a peut-être aussi sans vouloir opposer les deux aspects, je ne suis pas sûr que le film d'ailleurs veuille les opposer, C'est peut-être comme ça qu'on les perçoit maintenant, mais en tout cas, l'association de la population est intéressante. Et on peut aussi imaginer que ce modèle, si on peut appeler ça un modèle, puisse se retrouver dans d'autres pays. Parce que ce qui concerne la ressource, en fait, intéresse tout le monde. Et donc, au-delà de la question des partenariats et la privatisation, c'est la question de la façon dont on associe la population au projet de gestion des ressources qui me paraît intéressante dans cet extrait. Je vous redonne la parole, monsieur, mais je ne voudrais pas que vous l'accapariez trop.
Je veux simplement dire que la difficulté, parce que moi je l'ai vécu pour un exemple à Mundu, et c'est qu'on a du mal à trouver des acteurs qui soient vraiment responsables. Et puis quand on est parti, ben, qu'est-ce qui se passe? Au moment, on ne sait rien. Et c'est là toute la difficulté. Je ne veux pas dire qu'il faut vivre tout le temps là-bas. Mais du fontainier jusqu'au même au directeur général des services de l'hydraulique du pays dont je vous parle, eh bien, je peux vous dire qu'on a des surprises. Hein. À titre d'exemple, on dit que l'eau est en difficulté, d'accord. Sur la ville que je connais, donc, les gens qui ne payent pas leur facture d'eau sur une 2500 compteurs, vous allez avoir une quinzaine qui ne payent pas l'eau. Ce sont toutes les administrations et ça représente 35% du volume distribué.
Oui, madame.
Pardon. Oui, moi, je suis un petit peu étonnée de ce que j'entends là, parce que je vais dire un mot un petit peu choquant, mais ça sent encore très fort le colonialisme et ça me gêne beaucoup parce qu'on n'est quand même pas très bien placé dans nos pays dits civilisés pour parler du respect de la ressource, de la démocratisation, de la prise en charge de la ressource, quand on sait comment on pollue, nous, nos flottes, comment on gaspille nos flottes. Parce que, bon, d'accord, il y a des corruptions dans les administrations, mais quand on voit la quantité de piscines qui continuent à se construire partout dans toutes nos maisons, ça me gêne beaucoup quand j'entends dire des choses sur les autres qui ne font pas bien ce qu'il faut qu'ils fassent.
On va prendre une autre réaction, messieurs.
Je vais peut-être un peu prolonger là-dessus, mais effectivement, c'est un peu délicat de dire à des Burkinabés ou surtout des Nigériens qui gèrent pas très bien, qui se sont fait avoir par des contrats privés, quand nous, bah, en tant que consommateurs, on a aussi tendance à se faire avoir quand c'est une distribution privée de l'eau, quoi. Et les contrats sont effectivement conçus pour que ce soit pas trop transparent ou aussi transparent que l'eau qui arrive au robinet. Ça, c'est le premier point. Deuxième, je trouve toujours très intéressant de voir les mots qui sont employés, de parler de délégation de services publics pour ne pas dire privatisation, de parler de plan social pour éviter de parler de licenciement violent et massif. Il est fait allusion dans le documentaire à Johannesburg en 2002, rencontre des chefs d'État, de gouvernement, c'était donc Rio plus 10, là on vient de fêter entre guillemets Rio plus 20. Et effectivement à Johannesburg, il y a eu une chose qui a été citée, c'est qu'ils ont revu à la baisse les objectifs, mais il y a surtout eu les entreprises privées de dimension internationale qui se sont engouffrées et qui ont eu un village à partir de la rencontre de Johannesburg, ça a continué à Rio plus 20 cette année, où il y avait aussi tout un quartier avec les entreprises, parce que c'est à Johannesburg que s'est officialisé le PPP, le fameux partenariat public-privé, mais qui est une manière de dire bah, les services publics, s'ils ne sont pas bien assurés, il n'y a qu'à faire appel à ceux qui ont les compétences, les diplômes, etc. Et c'est quand on voit l'évolution de la Lyonnaise des Eaux, la Générale des Eaux, qui s'est appelée après Vivendi, après Veolia, qui ont élargi leur champ d'action vers les médias, la téléphonie mobile, etc. On se dit qu'a priori, s'ils ont été dans tel ou tel domaine, c'est pas uniquement par humanisme, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait du fric à faire. Alors, quand même une petite nuance sur quand j'entends « il n'y a pas d'eau ». bon, il faut y aller un peu plus, de manière plus modérée. Il se trouve que par hasard, bon, je suis passé à Assaï, où on voit le maire nigérien qui parle de l'arnaque sur la quantité d'eau facturée par rapport à ce qui coule à leur borne fontaine. Le canton ou le district de Assaï au sud de Niamey, il y a des centaines d'hectares de rizières, donc il y a quand même de l'eau. Et les gens mangent, on voit du mil burkinabé. Ne disons pas de manière un peu drastique, il n'y a pas d'eau. Il y a peu d'eau. Oui. Bon, Burkina, je suis allé aussi à Marcoy, à Gorom Gorom, où Pierre Rabhi avait créé son centre de formation à l'agroforesterie. Il y a effectivement plus de difficultés d'approvisionnement en eau dans le nord du Burkina. Les personnes qu'on voit sont des Tamatchèques, des Touaregs. Les Touaregs sont des éleveurs avant tout. Et là, il faut aussi rappeler que déplacer des populations ou envisager le déplacement de populations, culturellement, ce n'est pas du tout évident. Dans les peuls, il y a les tout-couleurs qui sont plutôt des cultivateurs et puis d'autres qui sont plutôt éleveurs. Et que la cohabitation entre les éleveurs et les cultivateurs n'est pas du tout facile. Il y a des conflits parce que les éleveurs ont des animaux à faire manger et qu'ils ont tendance à aller grignoter au bord des champs cultivés par les autres. Et qu'un autre aspect, c'est que comment les gens peuvent mettre de l'argent de côté, les villageois. Soit ils ont un peu de bénéfices et ils s'achètent quelques dixièmes ou grammes d'or qui rajoutent à leur boucle d'oreille, mais on voit pas ça, on voit plus ça. J'ai vu ça il y a 20-30 ans, des femmes qui avaient des boucles d'oreilles, c'était leur banque ambulante. Et comme c'était attaché à l'oreille, a priori, il n'y avait pas trop de risque de vol. Et puis, il y a une autre manière de thésauriser, c'est d'avoir du bétail. Et comme les pâturages sont communaux, où il n'y a pas de frais pour faire pâturer des animaux, on a intérêt à en avoir plusieurs, et que les vaches, les chèvres fassent des petits, surtout les vaches, pour avoir plus d'animaux. Et les animaux sont des accordéons chez eux, entre après l'hivernage et puis fin de sécheresse, le poids des vaches passe du simple au double. Mais leur logique individuelle, c'est d'avoir pas mal d'animaux, ça leur fait une banque potentielle. Et que plus il y a d'animaux, plus il faut de verdure pour les nourrir. Et plus il y a d'animaux, moins il y a de verdure parce qu'elles bouffent. Et que si on installe les populations aux zones, aux endroits où il y a des points d'eau, ben ça s'est passé dans pas mal d'endroits. Il y a des photos d'Yann Arthus Bertrand là-dessus, vu d'avion ou d'hélico. Ces zones-là, avec des ressources hydriques, sont beaucoup plus fréquentées par les éleveurs. Et du coup, ça assèche aussi les environs, parce qu'ils coupent les arbres pour que les animaux restent à boire dans l'eau. Donc, c'est il ne faut pas penser qu'à des solutions technologiques, mais il y a tout la dimension culturelle. Et puis, dernier point, quand on parle de l'Espagne, alors c'est vrai que sur les cartes présentées par Jean-Christophe Victor, on voit des régions d'Espagne qui sont plutôt dans le rouge, mais du côté de Séville, il y a une grosse consommation de flotte avec le tourisme, avec pas mal de piscines. Au sud, la région El Mar de Plástico, la mer de ce qui est appelé, surnommée la mer de plastique, les grosso modo 100 000 hectares de maraîchage pour nous fournir poivrons, aubergines, tomates toute l'année et les fraises une bonne partie de l'année. Ils ont tellement pompé d'eau là et ils en pompent de manière illégale sur le parc naturel qui est à proximité. Ils ont eu tendance à prendre de l'eau qui venait d'Andalousie. Et comme il manquait d'eau dans le sud, ils ont dit que les Catalans nous fournissent de l'eau. Donc il y a eu un projet. Mais les Catalans manquaient d'eau après. Donc il y a eu le projet après de prendre une partie des eaux du Rhône pour les emmener en Catalogne. Mais on peut continuer comme ça, aller chercher après de l'eau du Rhin pour compenser l'eau de la vallée du Rhône, etc. Et là, on est sur la course en avant. Et ce qu'il faudrait plutôt, c'est s'interroger sur l'adaptation des productions, à mon avis, l'adaptation des productions, l'adaptation des besoins entre le vital d'avoir de l'eau pour faire la cuisine et boire, et peut-être pas autant de piscines pour ce qui peut être vital pour certaines personnes, mais ça se discute dans les débats publics. Et voilà. Mais malheureusement, les déplacements climatiques, ils sont favorisés par la situation actuelle, et que quand on va boucler peut-être pour certains gouvernements encore plus les frontières par rapport à des immigrés, ça sera aussi peut-être lié à de la privatisation de l'eau et à de l'intensification avec, bon, je ne vais pas étendre sur ce sujet-là, mais il y a aussi des terres louées ou vendues ou cédées pour zéro pendant des décennies à des sociétés privées pour cultiver aux dépens des populations locales. Et ces populations locales, si elles ne peuvent plus cultiver sur leurs champs, ça se passe déjà dans pas mal de pays du monde, et ben elles vont aller dans d'autres endroits. Soit elles vont vers la ville, la capitale ou la grande ville de la région, soit ils vont rêver à l'Eldorado européen où on est en train de se dire non, on ne veut plus trop d'étrangers parce qu'on n'a déjà pas assez pour nous. Donc le problème, il est complexe. Mais je n'ai pas dit que c'est parce qu'il était complexe qu'il fallait ne rien faire et s'enfermer.
Merci beaucoup, monsieur, pour ces intéressants éclairages. Monsieur Joly, peut-être.
Je voudrais rajouter, puisque vous avez donné beaucoup d'exemples, je voudrais vous en rajouter trois. Vous parliez de Johannesburg. Quelques années après, on a donné une délégation de service public à une multinationale pour Soweto. Soweto, qui est une ville importante, il y a plusieurs millions d'habitants, qui avait résolu le problème de l'approvisionnement en eau par des systèmes équivalents à ce que nous avons vu pour le Burkina Faso. Quand la multinationale est arrivée, elle a mis en place un réseau moderne avec des bornes et distribution de cartes magnétiques prépayées qui permettaient comme ça à chaque consommateur d'acheter sa carte au bureau de tabac et de l'utiliser pour s'approvisionner en eau. Parallèlement, cette multinationale a exigé que soit retiré et détruit tout le système précédent, qui était considéré comme une concurrence déloyale. Il est évident que les habitants de Soweto n'ont pas accepté d'avoir à faire ce choix. Et bien évidemment, les fontaines avec cartes prépayées ont très peu fonctionné et la multinationale n'a pas fait les profits qu'elle espérait à Soweto. Le deuxième exemple, c'est tout ça pour dire que la population préférait son système peut-être un peu archaïque, peut-être un peu désuet, mais qu'elle contrôlait elle-même. Deuxième exemple, c'est le Mexique. Ou pour avoir le droit à une connexion sur le réseau d'eau installé lui aussi par une entreprise multinationale, il faut pouvoir présenter un titre de propriété. Autrement dit, quand cette multinationale dit qu'elle a connecté 92% des ayants droit, c'était 92% des gens disposant d'un titre de propriété. Or, 60% de la population au Mexique ne dispose pas de titre de propriété. Enfin, le troisième exemple, c'est la Bolivie, où lorsque Bechtel est arrivé, grande multinationale américaine, à Cochabamba, elle a mis en place, a commencé à mettre en place un réseau au titre d'un contrat qui lui donnait la concession de toute l'eau de la cuvette de Cochabamba. Et la première chose que cette multinationale a faite, c'est là encore de retirer tous les systèmes, ou de détruire tous les systèmes qui existaient et qui avaient été mis en place par la population. Évidemment, la population n'a pas accepté ce défi, l'a relevé, et il y a eu une guerre de l'eau, la première peut-être de l'histoire, une guerre de l'eau à Cochabamba, ça a été très dur. Et la multinationale américaine s'est retirée. Donc, on peut évidemment imaginer que, sans être bisounours, mais un peu quand même, que les multinationales sont là pour faire le bien, pour améliorer les conditions de développement des pays du Sud. Il ne faut quand même pas être naïf. En fait, elles viennent bien pour faire de l'argent, d'autant que dans ces pays, elles gèrent d'autres secteurs d'activité. On a parlé des télécommunications, c'est aussi les transports, c'est aussi tout un ensemble d'autres activités de services, et que l'eau, en quelque sorte, leur sert un petit peu de cheval de Troie pour s'implanter dans ces pays et faire d'autres profits dans d'autres secteurs.
La description que vous faites est quand même donc assez pessimiste. On a l'impression que par rapport à ce bien commun qu'est l'eau, voilà, il y a des sortes de multinationales, souvent étrangères, qui viennent et qui se saisissent de ce bien commun pour en faire du profit. Mais alors, quelle est la solution ? Est-ce que c'est de rester à une gestion collective avec de faibles moyens financiers qui donc ne permettent pas de garantir un accès équitable et de tous à l'eau ? Quelles sont les solutions pour les pays, par exemple, que vous venez de citer, la Bolivie, le Mexique ou l'Afrique du Sud ? Madame, vous disiez ?
Je pense que ça leur coûte encore plus cher d'être sous la coupe des multinationales qu'avant, quoi.
Ça leur coûte plus cher d'être sous la coupe des multinationales. Oui, mais ma question portait plus sur l'accès à l'eau, parce que, encore une fois, ce qui importe, c'est que les gens aient accès à l'eau potable. Donc, je ne sais pas, est-ce que dans votre fondation, vous réfléchissez justement à cette question, comment faire en sorte que de plus en plus de gens dans les pays pauvres aient accès à ces ressources ?
Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord s'interroger sur le statut de l'eau. Et c'était un peu le thème de l'exposé que je voulais vous faire, si le moment est venu.
Allez-y.
Je pense que c'est là qu'il faut trouver notre point de départ. Et ensuite, on verra comment les choses peuvent dans l'avenir s'organiser pour que effectivement la population, l'humanité tout entière ait ce droit d'accès à l'eau qui est pour le moment qui n'existe pas pour plus d'un milliard, pour de 2 milliards presque, enfin 1,5 milliard de la population mondiale. Moi, ce que j'ai entendu dans ce film est quand même intéressant, en dehors de tout ce débat sur la privatisation, sur les ressources locales, c'est que une dame m'a dit l'eau, c'est le bonheur. Eh ben, c'est des notions qu'il ne faut peut-être pas oublier. Une autre a dit on ne meurt pas de faim ici, mais de soif. Nous sommes restés 3 jours sans se laver. C'est le problème le plus crucial dans les villages ruraux. La Banque mondiale a exigé la privatisation de l'eau. Un autre a répondu, l'intérêt de la Banque mondiale, c'est de liquider le pays. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais c'est une jolie phrase. Il pleut de moins en moins. Les nappes sont de plus en plus profondes. De 10 mètres, on est passé à 30 mètres. Il y en a qui font 10 km pour chercher de l'eau. Il faut nous aider. Pourquoi on ne passe pas à l'action ? Voilà ce que disaient ces personnes que nous avons entendues tout à l'heure. Danielle Mitterrand, quant à elle, propose une forme de sacralisation de l'eau. C'est légitime autant que la sacralisation de la vie elle-même. L'eau n'est pas un problème de robinet. Et s'occuper de l'eau, ce n'est pas s'occuper de business, d'ingénierie, de commerce et d'échange, c'est s'occuper de la vie. Comment ne pas considérer avec infiniment de respect ce... Comment définir l'eau ? Ce cristal liquide qui a la propriété, sous ses multiples apparences, de transporter l'énergie du ciel dans ses puissants cumulus, de charrier des sédiments dans ses fleuves, et de transporter les aliments jusqu'à la plus petite cellule végétale ou animale. Ce que je dis là est peut-être, pour les esprits forts, empreint d'une touche d'animisme. Et alors ? Une vieille amie bolivienne, indienne, et ancienne ambassadrice de Bolivie en France, m'a dit un jour, tout le problème vient de ce que l'homme pense être propriétaire de la nature, alors que c'est la nature qui est propriétaire de l'homme. L'eau ne peut pas avoir un statut économique ordinaire. L'eau ne peut pas être une marchandise. Pas plus que l'air que nous respirons, que les rayons du soleil nécessaires à la photosynthèse ou que la gravitation universelle qui nous permet de garder les pieds sur Terre. L'eau ne peut pas avoir de prix puisque, contrairement aux autres biens naturels, notamment les énergies fossiles, son usage ne la détruit pas. Elle n'est pas non plus un quelconque bien issu d'une production industrielle. On ne fabrique pas l'eau, on se donne seulement la peine de la prélever là où elle se trouve. De plus, l'eau est un puissant organisateur social. Autrefois, les villes se sont créées à proximité des cours d'eau et des sources. Les réseaux étaient alors accessibles à tous, sans distinction de fortune. Prenez l'exemple de Rome. Dans la Rome antique, l'eau était distribuée à tout le monde sans contrepartie. Enfin, l'eau est le témoin et le symbole de l'égalité des hommes entre eux. Quelle que soit leur couleur, leur religion, leur coutume, tous les hommes ont besoin de la même quantité d'eau pour vivre, 16 litres par jour, pour faire face aux besoins de la boisson, de la préparation des aliments et de l'hygiène. Je crois que ces notions-là, il faut les avoir en tête avant d'aborder le sujet qui nous préoccupe et que vous avez tous collectivement très bien traité. À tous ces titres, l'eau mérite un statut particulier comme une richesse naturelle, permanente, gratuite et libre. Pourtant, en raison même de son caractère indispensable, l'eau est devenue l'objet de négoces. Cela a commencé au milieu du XIXe siècle avec l'essor du capitalisme qui ne voyait rien d'immoral à cela. Il était normal alors que la satisfaction d'un besoin soit rétribuée et qu'il soit même profitable. Cette évolution eut pour conséquence de lier l'accès à l'eau au pouvoir d'achat et par conséquent de lier le droit de vivre à une forme de solvabilité. Payer l'eau, c'est acheter le droit de vivre. Cela est évidemment peu sensible dans nos pays tempérés où la privation d'eau est rare et où la banalisation de l'eau est extrême. Mais cette formule est valable pour tous. Il s'agit d'une position morale et universelle qui condamne la marchandisation de la vie humaine au même titre que l'esclavage. Ça aussi, je crois que c'est des notions qu'il faut avoir et c'est ce qui, nous, à la Fondation France Liberté, nous anime. C'est cette conviction que l'eau, c'est autre chose. Ça ne peut pas être un bien marchand et je vais vous dire pourquoi. En réalité, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la différence de consommation entre les riches et les pauvres. Non seulement il existe un différentiel quantitatif considérable, mais aussi et surtout une injustice qualitative mortelle. La consommation journalière domestique varie grandement selon les pays. De plus de 600 litres d'eau par personne aux États-Unis et au Canada, 200 litres par personne en Europe et moins de 10 litres en Afrique, au moins dans certains pays d'Afrique. Si l'eau abondante des nantis assure son rôle principal de transporteur de richesses vitales, l'eau parcimonieuse des pauvres ne trouve à transporter que des germes et des poisons qui tuent. Aujourd'hui, de par le monde, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Déjà, ce qu'on a vu, ils ont de la chance parce qu'on les a tous vus transporter des seaux d'eau, tourner les robinets et boire, je pense, à satiété. Mais il y a quand même 34 000 personnes qui meurent chaque jour du manque d'eau potable. 1,5 million enfants meurent chaque année d'infections transmises par l'eau insalubre, ce qui fait quand même 4 200 enfants par jour. C'est la deuxième cause de mortalité infantile. Des millions de femmes et de fillettes, vous les avez vues, perdent quotidiennement plusieurs heures chaque jour pour aller à l'eau, mais pas à l'école. Le déficit en eau et en assainissement entrave la production d'autres ressources essentielles, ce qui renforce les inégalités profondes et enferme les populations les plus vulnérables dans le cycle infernal de la pauvreté. Bien qu'elle participe à une multitude de combinaisons chimiques, l'eau n'est pas détruite ou si peu. Éternellement, elle se recycle, toujours prête à entrer dans une nouvelle noria. Macronoria de la mer, de l'évaporation et des nuages, micronoria des échanges cellulaires et noria interhumaine, celle de l'eau usée que la nature régénère pour une nouvelle consommation. Mais quand on parle d'eau usée, c'est au sens d'eau qui a été utilisée. Ce n'est pas au sens d'un pneu usé qui a perdu de sa substance. L'eau se retrouve en quantité égale après usage. Simplement, elle est polluée. Dans le monde, la consommation totale annuelle d'eau est passée de 1 000 milliards de mètres cubes en 1950 à plus de 5 000 milliards aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que chaque année, il y a 5000 milliards de mètres cubes d'eau qui disparaissent. L'eau dont on use, l'eau dont use l'humanité représente 1 à 2% de l'eau potable planétaire. Cette eau est consacrée pour 80% à la production alimentaire, 12% pour l'industrie et la production énergétique et 8% pour la consommation et la préparation des aliments. L'eau douce potable disponible ne varie pas en quantité. Ce qui pose problème, c'est sa qualité et son accessibilité. La planète ne connaît pas une crise de la ressource en eau douce, mais une crise de la ressource en eau potable, une crise de la distribution. Il est à prévoir que cette situation s'aggravera sous la forme d'une crise hydrique majeure. Dans 30 ans, 60% de la population mondiale, y compris les Espagnols, seront concernés par une forte pénurie en eau potable en raison de la sécheresse et de l'épuisement des nappes phréatiques fossiles. L'eau sera devenue un tel enjeu au XXIe siècle que celui-ci deviendra le siècle de la guerre de l'eau, du moins si nous ne faisons pas quelque chose de manière urgente. Alors je voudrais vous donner maintenant la position philosophique, je ne redoute pas le terme, de la Fondation France Liberté à ce sujet. La Fondation France Liberté a une approche particulière des biens communs en identifiant tout particulièrement les biens communs du vivant qui conditionnent tous les autres. Pour nous, les biens communs du vivant ne sont qu'au nombre de deux, l'eau et la biodiversité. L'une est à l'origine de la vie, l'autre en est la condition principale. L'eau est le dénominateur commun de toutes les formes de vie sur Terre. La vie est fille de l'eau, la vie des bactéries, des plantes, des animaux et des hommes. Dès l'origine, elle a été et reste le lieu de rencontre unique des éléments constitutifs du vivant, les acides aminés, les ADN, les minéraux. Sans eau, l'improbable rencontre de ces divers éléments n'aurait jamais eu lieu. L'eau est à la fois le préalable et le composant essentiel de la vie. La biodiversité, quant à elle, est la condition du vivant. Nous savons depuis Darwin que la sélection naturelle s'exerce principalement sur un ensemble de possibilités offertes par les multiples variations génomiques qui interviennent à leur tour dans la variation des phénotypes. Nous ne parlerons pas plus ici de l'évolution des espèces, ce qui nous entraînerait trop loin. Mais il n'est pas inutile de rappeler que si l'humanité constitue bien une espèce unique, sa diversité culturelle représente l'équivalent de la biodiversité du vivant. Pour faire simple, il est évident que si la grande diversité interne de l'espèce disparaissait, si tous les humains devenaient des clones culturels, l'immobilisme évolutif de l'espèce signerait sa perte. Voilà pourquoi notre lutte pour que chaque homme ait un accès libre et gratuit à l'eau n'est pas dissociable de la diversité humaine par la reconnaissance et la préservation des peuples autochtones, des minorités, des communautés privées de droits et de représentation, bref, de tous les autres. Ce choix, qui trouve ainsi un fondement scientifique, ou pour le moins rationnel, ce choix de désigner comme bien commun du vivant l'eau et la biodiversité. Eh bien, ce choix résulte aussi d'un désir quasi métaphorique, esthétique même, celui d'exalter la liberté, la permanence, la variabilité et l'altruisme, et pour tout dire, la complexité du vivant. La Fondation France Liberté a fait en 25 ans l'épreuve de cette complexité en suivant un chemin qui l'a conduite de la défense des droits de l'homme à celle des biens communs de l'humanité et finalement à la défense des biens communs du vivant. Tout cela s'inscrit dans un courant de pensée, voire même une pratique, qui se généralise peu à peu grâce à la mondialisation, d'une prise de conscience et d'une indignation qui s'exprime de plus en plus fort. Les réseaux d'initiatives alternatives communiquent entre eux, remettent en cause la marchandisation universelle des biens et des services, proposent un autre monde possible, ouvrent des pistes nouvelles entre utopie et réalisme et proclament que le capitalisme est une étape dans l'histoire de l'humanité et non une fin. À vouloir croire au déterminisme libéral, la fameuse main invisible d'Adam Smith, à croire en toutes ces mains invisibles qui fondent les idéologies aussi bien laïques que religieuses, à croire en l'invisible, nous finissons par être aveugles. Seule la science, qui permet de comprendre le monde, l'intelligence, qui permet d'agir sur notre environnement avec prudence, lucidité et responsabilité, permettront aux hommes d'ouvrir les yeux et de faire émerger cette pensée complexe dont nous avons tant besoin pour réaliser la métamorphose de l'humanité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces alternatifs se tournent aujourd'hui vers Edgar Morin. Parlons maintenant des autres biens communs mondiaux. Alors, c'est bien commun ou bien public mondiaux, c'est la même chose. Ils sont d'un autre ordre et concernent exclusivement l'espèce humaine, du moins si on conserve au mot « bien » son sens possessif. Ce sont l'énergie, bien sûr, l'accès à l'énergie, la pureté de l'air, le climat, l'accès équitable aux ressources alimentaires et tant d'autres, si difficiles à classer dans un ordre de priorité. Il faut cependant les apprécier en fonction de la nécessité immédiate et de la satisfaction qu'ils nous donnent dans le présent, possibilité de se déplacer, de se chauffer, de manger, certes, mais aussi en fonction de leurs effets iatrogènes. C'est la pollution, c'est l'atteinte à la biodiversité, c'est la dégradation climatique, et enfin, en fonction de leur renouvellement au profit des générations futures. Cela nous conduit tout naturellement à parler de Rio+20. On a déjà un peu parlé. Nous y étions. Et je souhaiterais dire que nous pensions que Rio+20 serait une étape décisive et qu'il nous donnerait la définition, enfin, des biens publics mondiaux, qu'il nous donnerait leur ordre de priorité et la conduite à tenir pour organiser leur protection et leur renouvellement. Notre rêve était que le sommet de Rio puisse faire émerger une véritable coalition pour faire valoir le droit des biens communs. Une coalition qui permette de convaincre les Nations Unies que le temps était enfin venu de s'impliquer dans la constitution d'un ordre mondial nouveau. Nous attendions une avancée dans deux directions. Vers une économie verte équitable, vers une gouvernance démocratique de la planète dans le cadre du développement durable. Nous avons été déçus. En dépit d'une prise de conscience évidente des périls liés au pillage des ressources naturelles de la planète, nous restons confrontés à des problèmes qui restent sans solution. L'aggravation de la situation écologique, le changement climatique, la dégradation de la biodiversité. Les écarts de développement croissants entre les pays riches et les pays pauvres, la plus grande crise économique et financière des pays développés et surtout l'incapacité de prendre des décisions collectives au plan international. Pourtant, en 1992, il y a 20 ans, nous avions l'espoir d'un renouveau. Le sommet de Rio avait alors permis la structuration d'un droit international pour la protection de l'environnement, l'effacement de l'antagonisme entre développement et protection de la nature, l'adoption de 3 conventions cadres portant sur le changement climatique, la biodiversité et la désertification, et enfin la définition des objectifs du millénaire pour le développement et leur inscription comme projet phare à l'agenda des Nations Unies. Mais tout cela a été bouleversé par la crise économique qui a imposé de nouvelles priorités aux gouvernants. Priorité d'austérité, de relance, d'emploi, de protection sociale, au détriment de la seule priorité vitale, celle du long terme. Dans ce climat, nous avons pris conscience de l'affrontement de deux courants de pensée qui se réclament l'un et l'autre de l'économie verte, l'économie de l'environnement et l'économie écologique. Ça semble être synonyme, ça ne l'est pas. L'économie de l'environnement, eh bien, il s'agit dans cette approche de considérer que l'environnement est un facteur de production économique par la mise en place de la transition énergétique, par la construction des immeubles de haute qualité environnementale et tant d'autres projets. L'environnement devient ainsi le nouveau moteur de la croissance. Et puis l'économie écologique, c'est une alternative au modèle économique actuel qui se propose d'être strictement au service d'une société soutenable sur tous les plans, écologique, social, financier, économique et démocratique. Ce qui signifie sortir du modèle économique libéral actuel pour renforcer les modes de régulation. Il n'y a pas de synthèse possible entre ces deux voies. Il n'y a pas non plus de troisième voie. L'essentiel aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Ensuite, il faudra choisir son camp. Lié à ce choix, une question majeure reste en suspens. L'économie verte est-elle accessible aux pays en développement ? Cette question a été déjà posée sous une autre forme. Il n'y a pas pour le moment de réponse. Elle peut être la pire ou la meilleure des choses. La pire par un accroissement de la pauvreté et de la dépendance. La meilleure en ouvrant de nouvelles voies de développement accordées à leurs ressources, à leur capacité de développement propre, à leur créativité, leur culture, leurs solutions locales, leur production agricole de proximité, leur énergie utilisant prioritairement les ressources locales. Énergie alternative, bien sûr, il ne s'agit pas de leur construire des centrales nucléaires, même si au Niger, il y a de l'uranium. S'agissant du droit à l'eau pour tous, les choses étaient bien parties, et cela depuis 2002, on l'a rappelé tout à l'heure, quand le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU a adopté en novembre une observation générale sur le droit à l'eau. Une observation. Il disait ceci : le droit fondamental à l'eau autorise chacun à disposer d'une eau salubre suffisante de qualité acceptable, physiquement accessible et à un coût raisonnable pour les besoins individuels et les usages domestiques. Il a fallu attendre près de 10 ans et l'exemple de la Bolivie et de l'Équateur pour qu'une résolution du 28 juillet 2011 formule le vœu d'un droit universel d'accès à l'eau. C'est un progrès dans la prise de conscience, mais il est dépourvu de toute intention de passage à l'acte. Quand notre agriculteur tout à l'heure prétendait que la Banque mondiale voulait les liquider, il n'a peut-être pas tort. Voilà ce que je voulais vous dire sur un aspect qui est peut-être souvent un peu ignoré dans nos réflexions sur l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement un problème de robinet, pas seulement un problème d'ingénierie, pas seulement un problème de technique, c'est aussi une vraie réflexion philosophique qu'il nous faut mener et qui concerne tous les hommes, où qu'ils soient, quelle que soit leur culture, leur religion et leur mode de vie. Et puis j'avais prévu une conclusion, car je tenais ici à faire un hommage particulier à Stéphane Hessel, Edgar Morin et bien sûr Daniel Mitterrand, et tant d'autres qui ont puisé leur énergie et leur conviction dans la résistance contre le nazisme. En hommage à ces anciens qui nous donnent une leçon de jeunesse et rappellent au monde ce qu'est le devoir d'indignation. Je voudrais conclure sur cette valeur oubliée, la dignité. Avez-vous remarqué que le français est une langue qui est pleine de surprises ? Entre indigne et indignité, il n'y a qu'une différence, c'est un accent. Et cet accent, eh bien, il n'a jamais été aussi aigu. Et à quoi correspond-il ? Eh bien, l'indignation. la dignité, c'est le respect de la nature, c'est le respect des autres et de soi-même, c'est la responsabilité sociale de chacun, c'est l'autonomie, la connaissance, la frugalité, le partage et l'altruisme. La dignité pour tous doit être un objectif majeur du développement durable. En préalable, il nous faut dénoncer les excès, les hypocrisies, les alibis de toutes sortes qui ont fait du XXe siècle un siècle d'indignité. La rupture entre la croissance sans limite des désirs de l'humanité et la limitation des ressources de la planète a remis en cause tous les modèles de développement, qu'ils soient d'inspiration libérale ou non. C'est ce constat qui nous motive pour chercher un autre modèle de développement où la dignité humaine prendrait la relève du profit. Voilà le message que je voulais vous passer et qui, évidemment, peut susciter des contestations auxquelles je suis prêt à répondre.
Merci. Merci, Michel Joly. Alors, je vais lancer la discussion peut-être en me faisant un peu l'avocat du diable. Je pense que ce discours sur le statut moral, la responsabilité était nécessaire, enfin, de mon point de vue. Maintenant, je vais jouer un peu le rôle, un rôle un peu plus critique. En vous écoutant, j'ai eu deux images qui me sont venues, celle de René Dumont. Je ne sais pas si pour les plus jeunes, René Dumont dit quelque chose, mais René Dumont, en 1974, de la campagne présidentielle, tendant un verre d'eau à la caméra et indiquant à la population qu'il écoutait, peu nombreuse, enfin quand même quelques millions de personnes, voilà, un produit qui va devenir très très rare d'ici quelques années. Et puis l'image aussi de Jean de Florette dans un film de je ne sais plus qui, en tout cas tiré de Pagnol, à Nantes sous la charge, puisqu'il allait chercher de l'eau dans un pays très sec, en Provence. Autrement dit, ces deux images, moi, m'ont évoqué la rareté. Et la rareté, pour tout économiste qui se respecte, c'est ça a un prix. Hein. La rareté se paye. Et quand vous avez dit l'eau n'est pas une marchandise, ben, ça heurte, à mon avis, le bon sens ou le sens commun et le sens de beaucoup d'économistes. Donc revenons quand même sur cette idée de non-marchandise de l'eau. Alors j'ai bien compris la question du statut moral ou du statut que vous accordez à l'eau compte tenu de sa nécessité, de son lien avec le vivant. Mais quand même, dans la réalité d'aujourd'hui, l'eau n'est-elle pas une marchandise au sens où elle deviendra de même de plus en plus, au sens où elle devient de plus en plus rare et son accès devient de plus en plus compliqué. Alors sur ce point précis. Et ensuite, je vous interrogerai sur la question des deux modèles que vous citiez à la fin sur l'économie de l'environnement et l'économie écologique.
Je pense que dans vos références historique, il y a deux autres personnes qu'il faut citer. C'est Ivan Illich, que tout le monde a oublié.
Pas moi.
Qui a été quand même le personnage qui a ouvert la porte à la frugalité. Et puis, bien sûr, Pierre Rabhi, dont on a évoqué le nom tout à l'heure. Lui, il est toujours vivant. Et qui est véritablement l'artisan de la transformation du Burkina Faso. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est vraiment l'exemple de Pierre Rabhi qui a permis de faire décoller ce pays. Il l'a fait avec la modestie et la discrétion qui le caractérise, mais ça vaut le coup quand même de le dire. Alors, l'histoire de l'eau n'est pas une marchandise. C'est vrai que on arrive difficilement à rendre compte du fait que l'eau n'a pas de prix, mais qu'en même temps, le service de l'eau en a un. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut présenter le problème. Et ce prix ne doit pas être nécessairement supporté par le consommateur. Il doit être supporté par la collectivité. Et c'est pour ça que lorsque nous avons créé le mouvement des porteurs d'eau, avec Daniel Mitterrand, qui réunit des milliers d'individus à travers le monde, eh bien nous avons simplement dit que pour être porteur d'eau, il faut, un, considérer que l'eau n'est pas une marchandise, deux, que l'eau doit être restituée à la nature dans son état de pureté initiale, et trois, que la gestion de l'eau doit se faire sous le contrôle direct des populations et des pouvoirs publics, et être inscrit, et que le droit à l'eau soit inscrit dans les constitutions et évidemment au titre des droits de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tout. Cela ne répond peut-être pas directement à la question aujourd'hui, mais pour plus tard, c'est l'objectif qu'il faut se donner. Bien sûr qu'il va falloir investir, bien sûr qu'il faut de l'argent pour creuser les tranchées, pour poser des tuyaux, pour installer des robinets partout. Certes, mais pour autant, ça n'autorise pas à considérer que ces travaux doivent nécessairement dégager des profits pour des actionnaires et distribuer des dividendes. Et c'est là le fond du problème. Il est là, l'argent, il existe. Il n'en faut pas tant que ça pour approvisionner toute l'humanité en eau. Il suffirait de réduire de 1% le budget militaire de la planète. 1%. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant aurait accès à de l'eau potable.
Sur ce point, est-ce que dans la salle, vous avez des réactions, des contre-propositions ou vous partagez cet avis? Allez-y, exprimez-vous. Alors, attendez, je vous donne la parole avec le micro.
Je suis d'accord avec vous. Aussitôt, dans la discussion, j'ai pensé que ce n'était pas logique que ce soit la population qui supporte les charges de toute la gestion de l'eau, quoi. C'était les gouvernements, les services publics, enfin, je dirais, les communautés. C'est pas logique que ce soit qu'on prenne des profits sur une denrée de première nécessité alors que ça peut être supporté par le collectif, quoi. C'est la vraie question, quoi.
Il ne faut quand même pas oublier, oui, c'est ce que j'allais dire, de toute façon l'argent il vient bien de quelque part. Mais ce qui est important, et on l'a vu dans le film, c'est que la contribution que l'on demande, c'est au Burkina Faso, ouais, c'est ça, vous savez, les petites pièces ou les branches de mil, cette contribution, évidemment, est une valeur marchande, c'est de l'argent, c'est de la valeur, c'est ça aussi une valeur symbolique. C'est aussi montrer que l'eau a de la valeur, pas forcément un prix, mais qu'en échange, c'est le don et le contre-don, en quelque sorte, en échange de cette richesse indispensable à la vie, eh bien, on fait un effort pour alimenter un fonds commun qui profite à tout le monde et surtout qui est utilisé pour l'entretien du réseau. Donc, on sait où passe cet argent. Et bien sûr, c'est vrai que ça serait encore mieux si c'était gratuit. Et j'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, l'important, c'est de savoir à quoi va servir cet argent. Et dans ces villages où tout ça semble précaire, semble artisanal, semble relever d'une espèce d'improvisation locale qui ne dure pas. Et oui, de temps en temps, ça se déglingue et puis ils n'arrivent pas à réparer. Mais de moins en moins, d'ailleurs. Mais en tout cas, la population sait à quoi a servi cette rétribution.
Madame, vous aviez là.
Juste une petite comparaison. Vous disiez donc que ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et on a exactement.
Simone Veil qui avait dit ça la première.
Oui, mais c'est exactement le même terme qu'on utilise pour la santé. Oui. Or, la santé, elle a aussi eu une prise en charge et on a tous accepté de mettre des sous dans notre santé, des sous collectifs depuis 1945, entre autres au niveau de la Sécu. Ça avait été accepté et c'était passé à cette époque-là dans la... C'est pas le consommateur qui paye son chirurgien, c'était la collectivité qui payait le chirurgien qui remettait en santé. Comme vous disiez que ça peut être la collectivité qui met en place le système de distribution d'eau. Bon, là, l'exemple de la santé, il est mal parti. Hein, c'est un petit peu mal parti, mais on a eu en tout cas ce rêve et cette réalité-là à un moment donné. Si on y est arrivé pour la santé qui coûte beaucoup plus que pour l'eau, comment on peut ne pas arriver à l'eau? C'est embêtant.
Je trouve la comparaison intéressante. La santé n'a pas de prix.
Bien sûr, bien sûr. La santé n'a pas de prix.
Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, monsieur?
Oui, deux remarques. La première, je voudrais revenir sur une expression de madame qui a pris la parole là et qui l'avait prise tout à l'heure et qui a parlé de colonialisme. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui font beaucoup d'efforts. Je pense notamment aux ONG, Donc il y en a dans la salle, il y a des représentants, des anciens représentants, et faut pas coller le mot colonialisme derrière leur action. Je pensais plutôt le mot solidarité et tout le travail qui est fait. Alors vous montriez le Burkina Faso, je pense qu'il y a du travail qui est fait par ailleurs dans le monde. Et voilà, donc ça me gêne un peu de mettre le mot colonialisme derrière toutes ces actions. C'est des actions de solidarité. Oui, non, mais c'était juste. D'accord. Donc il y a effectivement un travail important qui est fait avec les populations locales. Et de toute façon, effectivement, ça fonctionne que si les populations locales sont prises en compte et si on travaille avec elles. Et ensuite, de toute façon, ce sont les populations locales qui restent et les techniciens partent. Donc c'est plus de la solidarité, du partage aussi, du partage de savoir, de l'échange de techniques. Et je crois que c'est très important. Au niveau français, je pense qu'il y a aussi des actions de solidarité qui... Alors, je pense qu'il faut en faire la publicité. Et plus on en fera la publicité, je pense, plus les citoyens français participeront à cet effort et surtout, peut-être, géreront leur propre consommation d'eau de manière différente. Alors effectivement, il y a encore des piscines et on en voit beaucoup, notamment aussi sur Poitiers. Mais il y a quand même des citoyens qui commencent à faire des efforts, à comprendre les choses. Et puis on le voit. Moi, je prendrai un exemple de Poitiers parce que je ne connais que Poitiers. La population augmente, mais la consommation d'eau potable n'augmente plus, notamment depuis 2005. 2005 a été dans la région Poitou-Charentes un marqueur avec des problèmes de sécheresse. Et je pense que si on continue à faire prendre conscience à la population qu'il y a des problèmes et qu'il faut aider les autres, on peut aussi améliorer et faire en sorte que la consommation baisse. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, sur le prix et la tarification. Je pense qu'effectivement, plusieurs ont dit... il y a du service, donc quelque part il faut donner quelque chose. Je pense que ça, c'est important. Après, c'est alors qui donne? Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que c'est la collectivité, donc derrière l'impôt? Moi, je pense que c'est quand même important que ce soit le consommateur, parce qu'on s'aperçoit notamment lorsqu'on a des gens qui ne paient pas l'eau, derrière ils ont des consommations complètement anormales. Donc il y a, je pense, une question de responsabilité, de responsabilisation du consommateur. Et si je prends l'exemple en France, vous prenez un bâtiment collectif avec des gens qui derrière ne savent pas ce qu'ils consomment et combien ils consomment, et on a des consommations qui sont complètement anormales. Si vous prenez cette même personne avec son propre compteur, il apprendra, je pense, à mieux gérer. Donc c'est très complexe. Il y a en ce moment un débat qui commence avec la tarification sociale des énergies. Je pense que l'eau va suivre avec une idée, c'est effectivement de faire payer, mais de faire payer quelque chose de supportable. Donc il y a le chiffre de 3%. Hein. L'idée, c'est qu'on ne doit pas dépenser plus de 3% de ses ressources pour que ce soit acceptable. Voilà, il y a plein de pistes, mais à mon avis, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités.
Je voudrais oui. Répondre peut-être, à moins que ça aille dans le même sens.
Une petite information.
Monsieur Joly va réagir d'abord à monsieur et ensuite...
Oui, je voudrais revenir sur l'affaire du colonialisme. En fait, le colonialisme, on sait très bien ce que c'est, très bien. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il s'est accompagné d'un très gros mensonge. Ce mensonge, c'était de laisser croire aux populations des pays du Sud, aux populations pauvres, qu'un jour, eh bien, ils atteindraient le niveau de vie et le mode de vie occidentale. Ça, on l'a fait par l'éducation, par l'information, par la télévision, par les modèles qu'on croyait utiles que l'on donnait aux pays du Sud. On sait aujourd'hui, on le savait probablement même lorsqu'on prononçait ce mensonge au début du siècle, que cela ne pouvait pas se faire. Mais aujourd'hui, on le sait parce qu'on peut le mesurer, on connaît l'empreinte écologique, etc. Si toute la population du monde vivait au standard des États-Unis ou de l'Europe, il faudrait je ne sais pas combien de planètes pour supporter ce mode de vie. Et aujourd'hui, évidemment, on est obligé quand même de revenir en arrière. Ne pas être colonialiste, c'est justement cesser de se présenter en modèle. À partir de là, eh bien, il faut travailler sur les ressources, les modes de vie, les singularités des populations du Sud. Et d'ailleurs, je ne dirais pas qu'elles demandent que ça, parce qu'elles sont tellement imprégnées de ce modèle, elles ont tellement ce désir de vivre comme les Occidentaux, mais en même temps, ils sont très attachés à leur mode de vie. Même ceux qui doivent faire 10 km pour aller chercher l'eau, au fond, bien sûr, ce sont de vieilles femmes qu'on a entendues, elles pourraient difficilement vivre autrement, mais il ne faut pas croire qu'elles vivent dans un enfer. Elles vivent chez elles, elles vivent comme leur mère, comme leurs grands-parents. Elles élèvent leurs enfants dans le respect des traditions. Ah, évidemment, c'est un peu dur à entendre, mais c'est vrai que le respect des traditions, ça concourt au lien social, ça concourt à une forme de bonheur. Et ça, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mépriser ce qui est différent. Il faut au contraire partir de ce qu'ils sont pour leur donner la possibilité d'être plus heureux sans pour autant changer et vouloir nous ressembler. Voilà, c'est à partir de cela qu'on pourra dire qu'on a cessé d'être des colonialistes. Nous, à la France Liberté, on l'a compris à nos dépens. Lorsque, au début, il y a 25 ans, on a créé cette fondation, on est parti sur des projets de développement, la fleur au fusil, on envoyait des gens complètement incompétents. Oui, complètement incompétents. Creuser des puits, ils creusaient des puits, puis ils repartaient. Et puis le puits était mal équipé, était mal conçu, il s'écroulait, on ne revenait pas. Et on laissait un mauvais souvenir. Puis un jour, Daniel Mitterrand a dit qu'il faut arrêter. Nous allons repérer les associations qui sont les vrais pros, qui savent faire ce travail, qui savent non seulement faire le puits dans les normes, mais qui savent aussi instruire la population pour qu'elle puisse ensuite l'utiliser en toute autonomie. Alors ça a bien fonctionné. Ça a si bien fonctionné que ça nous a coûté très cher. Mais au moins, on savait où passer notre argent et que, dans l'ensemble, les choses étaient positives. Puis il y a eu une troisième étape, une troisième réflexion de Daniel qui s'est dit, mais au fond, bien sûr, elles font bien leur boulot, ces ONG, mais est-ce que c'est les ONG qui doivent nécessairement faire le travail à la place des gouvernements. D'où l'idée que, bien sûr, fallait continuer à subventionner, à aider ces ONG compétentes, comme l'Eau Vive, qu'on a vu dans le film, mais qu'il fallait aussi vraiment avoir une action politique, qu'il fallait porter témoignage, qu'il fallait faire connaître la responsabilité des gouvernants. Et ça a été la troisième phase qui nous a progressivement amené à une quatrième phase, qui est celle dont je parlais tout à l'heure, sur les biens communs du vivant. Alors, revenons en France, puisque on y revient toujours dans ce genre de débat, c'est très difficile de ne pas se focaliser sur nous-mêmes. Bien sûr, il y a quand même des progrès, il ne faut pas croire, même les multinationales, ont compris que leur intérêt n'était pas de poursuivre dans la voie de la prédation et qu'il fallait peut-être trouver d'autres modes de fonctionnement. Alors, il y en a deux qui ont été évoqués. Le premier, c'est la facturation sociale. Alors, la facturation sociale, en fait, elle existe déjà pour l'eau. On en parle pour l'électricité, pour d'autres fluides, mais elle existe déjà pour l'eau. Et elle a été inaugurée, je tiens à le dire quand même, à Libourne par le maire qui n'est autre que notre actuel président et qui a négocié pied à pied avec Suez pour obtenir cette facturation sociale qui fait que les 40 premiers litres d'eau sont quasiment gratuit. On ne peut pas faire de la gratuité, c'est interdit. Mais on a fait un prix qui est... Le deuxième... Non, les 40 premiers litres par jour. Alors, c'est le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est celui du compteur. Parce que ça, c'est un problème de compteur. Ben, c'est un problème de quotient familial, c'est assez compliqué. Mais pour le moment, ben, c'est tous les foyers, c'est-à-dire tous ceux qui ont une facture, hein, qui bénéficient de la quasi-gratuité des 40 premiers litres d'eau. Alors, le problème du compteur, effectivement, il faut aussi faire en sorte que l'on ait des compteurs d'eau qui affichent d'une manière beaucoup plus claire la consommation. Je pense que si on avait non seulement le compteur qui sert à faire la facture, etc., mais ne serait-ce qu'un petit débitmètre qui serait installé dans le couloir, dans la cuisine, et qui permettrait d'un seul coup d'œil de voir ce que l'on consomme, ce qu'on a consommé dans la journée, ce qu'on a consommé dans la semaine. Un débitmètre qui le donnerait en litres, tout simplement, mais qui permettrait à chaque foyer de se dire, bon, là, en ce moment, on est en train de dépasser la norme, ou la norme qu'elle s'est fixée elle-même. Le problème, c'est que c'est bon pour des résidences pavillonnaires, pour des appartements qui ont leur propre compteur d'eau. Mais de plus en plus, les gens vivent dans des immeubles avec des syndics qui répartissent la charge d'une manière qui est souvent un peu aléatoire. Et les locataires ou les propriétaires dans ces immeubles n'ont même pas accès à la facture. La facture produite par Veolia, par SOR, Suez et compagnie. Comment ? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pour ça, on est là pour ça, on est là pour leur dire. Hein. Voilà, donc il y a quand même des choses qui peuvent bouger, mais ça ne change pas fondamentalement les principes moraux que j'ai donnés tout à l'heure.
Attendez, madame, si vous voulez parler. Si on vous a entendu.
Alors, si vous voulez travailler sur les factures d'eau. On ne va pas ouvrir ce débat parce que c'est d'une complexité incroyable.
D'autant qu'il va nous falloir terminer.
Vous allez sur Internet, hein, le prix de l'eau, et là, on vous demandera de vous donner un certain nombre d'informations qui sont toutes compilées par la Fondation France Liberté et par 60 millions de consommateurs. Et on va bientôt pouvoir publier la facture type. Expliquer aux gens à quoi correspondent les différentes prestations qui apparaissent sur une facture d'eau, hein, et qui sont absolument incompréhensibles, pendant que vous avez certains qui ont l'entretien du compteur, hein, facturé. Bon, on n'a jamais vu personne venir entretenir le compteur d'eau. Hein, bon. C'est un exemple. Et puis, vous aurez aussi la cartographie en France du prix de l'eau. Et vous verrez qu'entre la Bretagne et la Provence, il y a une certaine différence.
Très bien, écoutez, on est obligé de s'arrêter là. Il est 9h passé. Merci beaucoup, monsieur Joly, de ces différents éclairages. Merci à tous pour les vôtres, qui étaient très intéressants. Et je repasse la parole à Yves pour terminer.
Juste quelques secondes pour vous dire que ce débat sera poursuivi jusqu'à la fin de la semaine. Samedi après-midi, le thème sera... relations publiques-privées, avec une conférence, puis un film spécifiquement sur ce problème-là. Et puis demain soir aussi, ça sera une suite, puisque la thématique de la soirée, c'est l'eau citoyenne, avec un collectif qui s'appelle Cargo en début de soirée à 18h, et qui regroupe vraiment une action de citoyens dans la région. Et puis un exposé de Bernard Devancé à 19h30. Donc, merci d'être venu ce soir et puis rendez-vous demain, samedi et dimanche encore. Au revoir.